Le récit.
Pour ouvrir en grande pompe ce numéro spécial d'Historiquement Vôtre consacré au docteur Maboul de l'histoire, Stéphane Bern nous propose de démarrer avec le maître étalon des docteurs Maboul, le psychopathe de la carte vitale, l'indépassable docteur Petiot.
Oui Mathieu, c'est effectivement une affaire qui a défrayé la chronique pendant la Seconde Guerre mondiale. Un procès criminel au grand retentissement, celui du docteur Petiot, connu également sous le surnom évocateur de docteur Satan. Un homme qualifié de plus grand criminel de tous les temps par les médias lors de son arrestation. Et pour cause, cet homme de presque 50 ans, médecin de province, originaire d'Auxerre, très brun, la peau blanche, une bouche mince. Faut toujours se méfier, paraît-il, des gens qui ont une bouche mince.
Ah bah mince,
quelque
alors.
Chose d'inquiétant dans le regard. Il est accusé des meurtres odieux d'au moins 27 personnes. Au moins, car des victimes, il y en a vraisemblablement eu d'autres. Lui-même en revendiquera 63. Au lendemain de son arrestation.
Parce qu'il était fier en plus.
Tout commence alors que la France est encore sous l'occupation le 11 mars 1944 en début de soirée. La police est appelée par les habitants de la rue Le Sueur dans le très chic 16e arrondissement. Ils s'inquiètent d'une odeur ignoble et d'une épaisse fumée noire qui se dégage de la cheminée de l'un de leurs voisins. Ce voisin s'appelle Marcel-André Félix Petiot. Il possède depuis 3 ans un hôtel particulier au numéro 21, un immeuble cossu dans lequel il ne vit pas. Il habite avec sa femme et son fils Georges dans le quartier de l'Opéra. Arrivé sur place, les pompiers commencent par prévenir le propriétaire des lieux. Il se trouve à son cabinet de médecine. Oui, parce que Marcel Petiot est un médecin, et pas n'importe lequel, si l'on en croit le prospectus qu'il a distribué pour signaler son arrivée à Paris, signé « Docteur Petiot, chef de clinique ». Petiot se présente comme diplômé de la faculté de Paris, ex-interne des hôpitaux et asiles, médecin de l'office médical permanent de la Seine et auteur soi-disant d'ouvrages sur les maladies nerveuses et les cures de désintoxication. La publicité prévient aussi que le docteur dispose d'un matériel des plus modernes et perfectionnés. Bistouri électrique, outillage chirurgical, aérothérapie. Il est dit, je cite, que le docteur Petiot procède aux accouchements sans douleur. Il supprime également la douleur dans le cas de cancer, ulcération ou zona. Petiot promet aussi des résultats probants dans le traitement des affections respiratoires et surtout tuberculeuses et dans les maladies infectieuses du sang, blénorragie ou syphilis. Au téléphone, le docteur Petiot demande aux pompiers d'attendre son arrivée, mais il décide de pénétrer de force dans le domicile par le premier étage. À l'intérieur, l'odeur est telle que plusieurs de ces hommes, pourtant rodés aux situations éprouvantes, ne peuvent se retenir de vomir. Dehors, la foule s'est massée. Dedans, les pompiers les moins éprouvés progressent vers le rez-de-chaussée, puis le sous-sol. C'est de là que provient visiblement la fumée des chaudières du chauffage central. Arrivé en bas, ce qu'il découvre est indescriptible. Des corps dépecés, démembrés, en train de brûler. Les corps de 27 personnes seront finalement identifiés. Et ce n'est pas tout. La cave est équipée d'une porte capitonnée pour camoufler le bruit des cris, d'un puits rempli de chaux-vives et d'une pièce remplie de gaz où, sur la porte, un judas permet d'observer l'agonie des victimes. Nous voilà là, dans un charnier. Dans l'antre d'un véritable monstre. L'enquête va montrer que ces victimes sont pour la plupart des juifs, mais aussi des malfrats en cavale qui tentaient d'échapper à la Gestapo. Comment a-t-il fait pour les attirer ainsi dans son antre? Eh bien, le docteur Petiot piégeait ces victimes en leur proposant de les faire clandestinement sortir de France. Il les faisait venir de nuit à son domicile, munis de leur argent et de leurs biens les plus précieux. Puis il les enfermait dans sa cave, les détroussait et les tuait. C'est pour mener à bien ce plan machiavélique qu'il a ainsi soigneusement aménagé le sous-sol. La seule partie de l'hôtel, l'enquête le montrera, dans laquelle il a fait réaliser des travaux. Et quels travaux ? Le motif de ses crimes ? Ben, l'argent, bien sûr. Il aurait ainsi empoché près de 200 millions de francs, soit l'équivalent aujourd'hui de 50 millions d'euros.
Vous allez peut-être nous le dire, Stéphane, après, parce qu'à ce stade du récit, une question se pose. Vous avez dit qu'il y avait un judas pour observer l'agonie des... Et du coup, ça paraît un peu antinomique avec le fait que c'était pour l'argent. Si c'était pour l'argent uniquement, il n'aurait pas voulu en plus les voir mourir, c'est affreux.
Mais pour s'assurer, évidemment, de...
Ah, c'était juste pour s'assurer que le travail... Ah, mon Dieu.
Le docteur Petiot semble capable de tout, capable d'un sang-froid remarquable, surtout. Mythomane, il n'est pas un grand ponte, comme il veut bien le faire croire. C'est un médecin à la réputation plus que douteuse, qui a déjà fait l'objet de poursuites pour ses pratiques frauduleuses. Quand Petiot arrive au 21 rue Le Sueur, ce 11 mars 1944, suite à l'appel des pompiers, son attitude prélude déjà de ce qu'elle sera tout au long de son procès très médiatisé, éhontément mensongère et choquante. Auprès des policiers qui sont sur place, il se fait passer pour le frère du docteur Petiot. Il pénètre sans vergogne au sous-sol, enjambe comme si de rien n'était les corps qui jonchent le sol. On raconte même qu'il se saisit d'un bras dans la chaudière et le retourne comme s'il s'agissait d'un simple rondin de bois. Son aplomb est tel que les policiers le laissent même monter récupérer des documents pour son soi-disant frère à l'étage. Puis il disparaît. Il ne sera retrouvé que 7 mois plus tard, caché sous un faux nom au sein des forces françaises de l'intérieur, la FFI. Cette fuite va participer à la ligne de défense pour le moins audacieuse que le docteur Petiot va adopter lors de son procès en 1946. Selon lui, il aurait assassiné ses victimes au nom de la résistance. Ses corps retrouvés dans le sous-sol sont ceux de criminels nazis et de collabos tués au nom de la France. Il n'en démordra pas et ira même jusqu'à accuser des magistrats de fidélité au régime de Vichy. Quant à son avocat, maître René Floriot, sa stratégie est tout aussi singulière. Il dénonce un procès hautement médiatique, nuisant à la présomption d'innocence de son client, mais c'est un échec. Après 2 semaines de procès et 3 heures de délibération, Marcel Petiot est reconnu coupable, le 4 avril 1946, du meurtre prémédité de 24 des 27 victimes retrouvées dans sa cave. Il est condamné à mort et guillotiné moins de 2 mois plus tard. Savez-vous ce qu'il a dit à l'avocat général qui est venu le réveiller le matin de son exécution ?
Non.
Tu me fais chier. Selon le directeur de la prison, il n'avait pas l'air d'avoir peur. Au contraire, il souriait, visiblement détaché de ce qui lui arrive. D'ailleurs, on raconte que pendant les audiences, il arrivait au docteur Petiot, véritable diable ricanant, comme il sera écrit plus tard, de s'endormir. Il s'endormait, alors même que se jouait à ce moment-là sa possible condamnation à mort. Ce comportement a donné lieu à une hypothèse qui était d'ailleurs plusieurs épisodes de son passé et qui aurait pu peut-être lui éviter, vous le verrez, la peine de mort.
Historiquement vôtre.
Dans un instant, sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël reviennent pour la suite du récit. Europe 1,
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si Doctolib avait existé, clairement, il aurait eu pas mal de réclamations. Stéphane Bern nous raconte le destin meurtrier du docteur Petiot.
Mathieu, à votre avis, qu'a-t-on imaginé sur le docteur Petiot qui aurait pu peut-être lui éviter la guillotine ?
Bah, qu'il était fou, j'imagine. Enfin, si j'avais été son avocat, c'est en tout cas la ligne de défense que j'aurais adoptée.
Effectivement. Cela aurait été une stratégie formaline et tout à fait à propos. Surtout quand on connaît le passé de notre individu.
Ah.
Pour commencer, il a 12 ans quand sa mère meurt dans un hôpital psychiatrique. À l'âge de 17 ans, un psychiatre le déclare inapte à être jugé après avoir été accusé, rien de terrible à ce stade pourtant, de fracturer des boîtes aux lettres. Petiot a, selon l'expert, une personnalité anormale et socialement inadaptée. C'est pas fini. Durant la Première Guerre mondiale, Petiot est un temps interné pour raisons psychiatriques. Plus précisément pour déséquilibre mental, neurasthénie et dépression paranoïaque. À la fin du conflit, il est réformé pour troubles psychiatriques. La commission qu'il suit conclut quelques années plus tard à une psychose mélancolique, une obsession de la persécution et une démence précoce. Rien que ça. En tout cas, ça n'empêche pas Petiot, au sortir de la guerre, de se lancer dans des études de médecine et d'obtenir son diplôme avec mention très bien. À l'âge de 25 ans, il installe son cabinet dans une petite ville dont il devient rapidement le maire, Villeneuve-sur-Yonne. Mais les ennuis le suivent. On l'accuse de kleptomanie et de détournement d'argent. Plus grave, des personnes disparaissent autour de lui. Sa bonne, par exemple, elle ne sera jamais retrouvée. Petiot est également aperçu près d'un incendie dans lequel on retrouve un corps au crâne défoncé. Contraint de quitter la ville, le docteur Petiot s'installe à Paris. Là encore, les soucis s'accumulent. La justice lui reproche de monnayer des ordonnances à des toxicomanes. Il est également surpris en flagrant délit de vol dans une librairie. Suivant une stratégie qu'il a déjà utilisée à plusieurs reprises, il fait valoir ses problèmes psychiatriques. Ça paye. Petiot est interné, mais seulement quelques temps. Il reprend ensuite ses activités comme avant. Une prétendue folie, une folie bien réelle, on ne le saura jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il avait oublié d'être bête. Il a si bien caché son magot, de l'argent, des lingots d'or, des œuvres d'art, des diamants bruts ou des bijoux apportés par les victimes, qu'il n'a jamais été retrouvé. Son hôtel particulier a été fouillé de fond en comble, de même que ses autres adresses. En vain, il n'en reste rien.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du célèbre docteur Petiot, nous sommes avec l'historien Claude Quettel. Bonjour Claude.
Bonjour.
Bonjour, vous avez publié l'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable, chez Perrin. Alors, chez le docteur Petiot, la question de la folie, on l'a bien compris, se pose dès sa jeunesse. Alors, était-il fou ou coupable, ou les deux à la fois, Claude Quettel?
Alors, les deux à la fois, au regard du droit et de la justice, n'est pas possible. Si le code pénal, il n'y a ni crime ni délit, etc., lorsque le prévenu était en état de démence. Mais, alors, fou ou coupable, je réponds fou sans hésiter.
Oui. Comment vous expliquez que la folie ait à peine été évoquée pendant le procès de Petiot? Pour un avocat aujourd'hui, on se dirait que c'est l'axe principal qu'il faudrait utiliser.
C'est la grande question du procès, je veux dire. Le maître Floriot, qui est très connu déjà à l'époque, ne plaide pas la folie. Alors, plaider la folie, déjà, quand vous plaidez la folie, quand vous êtes avocat, d'assises et que vous plaidez la folie sur un crime, c'est déjà parfois un peu difficile.
Oui,
quand le
27,
crime
oui.
est ignoble, les jurés ont tendance à ne pas suivre. Mais alors, s'il faut multiplier par 27, ça devient très très difficile, parce que la démence, alors 27 fois la démence, c'est 27 fois plus difficile à plaider qu'une fois la démence. Donc, de toute façon, Petiot est envoyé directement à la guillotine par la longue plaidoirie filandreuse, 6 heures de plaidoirie de maître Floriot, ça c'est sûr, c'est certain.
Selon vous, Claude Quettel, il a été très mal défendu par maître Floriot?
Oui, oui, il a été mal défendu de toute façon. Est-ce qu'il était défendable?
Nous, on ne veut pas mettre de jugement de valeur, évidemment.
Oui, parce qu'on a l'impression, étrangement, que Stéphane tente de réhabiliter le docteur Petiot, ce qui est quand même assez borderline dans notre émission.
tout au long du procès, la folie de Petiot est flagrante. Il s'invente un groupe de résistance qu'il appelle « Tenez-vous bien ». Alors aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Flytox, autrefois, c'était un insecticide épouvantable que moi j'ai connu étant gosse. Est-ce que quand on est dans un groupe de résistance, on l'appelle Flytox, hein? Il a une machine qui tue de loin, une machine, un rayon de la mort. Mais bien évidemment, vous avez le procureur a toujours beau jeu de dire que oui, mais c'est de la simulation. C'est pas aujourd'hui, avec le recul, oui, très calmement, on dit il était fou, mais sur le moment, pas forcément.
En tout cas, on va continuer à parler de nos docteurs les plus maboules de l'histoire.